pour rien qu'elle a abandonné, justement, le ministre Roberge, qui, là, a pas confirmé s'il l'appuyait encore, parce que, t'sais, au vu de ce qui se passait dans la population, elle a dit « OK, je peux pas continuer dans la même traque que François Legault et le ministre Roberge. »
Prochain sujet, l'incroyable Roger Ferland est en studio avec nous. Qui est Roger Ferland? Ben, c'est l'ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec qui faisait trembler les jeunes bombes dans Saint-Roch à notre époque, Jeff. On entendait parler de Roger.
Okay, oui.
Tout le temps. Croisez pas Ferland.
Quand on se promenait au parc Victoria, il y avait l'ombre de Roger Ferland au-dessus.
Si c'est Ferland qui est sur ton dossier de vol, d'après moi, il va te pogner.
T'es fait à l'os.
Puis ces questions sont tellement longues que ça se peut que tu t'endormes puis que tu souffres le martyr.
Tu veux pas passer à l'interrogatoire de Roger.
Salut, Roger Ferland.
Bonjour, messieurs. Mais vous aviez juste à vous tenir avec du bon monde, les gars. Vous auriez bien dormi la nuit et le soir, vous autres.
Les conversations les plus intéressantes, c'était avec ces gars-là.
C'est ça.
Ils nous rapportaient ce que tu faisais.
Hey, Roger, on faisait un travail extraordinaire avec notre gang de chums.
C'est correct, ça.
Moi, ça va, Roger Ferland?
Très bien, messieurs. Très bien. Ouais. Bonjour, en pleine forme, également.
Est-ce que le fait que, que tu restes dans les médias comme vulgarisateur, justement, de la scène policière, est-ce que ça te garde dans le bain? Tu t'ennuies-tu des fois de cette job-là que tu avais, qui avait beaucoup d'adrénaline, on va se le dire?
Je m'ennuie de ça, oui, tout à fait. Il y a des choses duquel je m'ennuie pas du tout, mais je m'ennuie effectivement de savoir que tu peux changer des choses à un moment donné importantes dans la vie des gens. Je m'ennuie pas de m'ostiner avec des patrons pour une opération, un budget, tu viens de le dire, un budget où, Roger, on n'a pas le temps de faire ça, puis comment ça va coûter si on fait ça?
Mais la confrérie, ça doit te manquer une fois de temps.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais j'ai la chance d'en croiser encore beaucoup. Je fais encore du sport avec eux autres, je m'entraîne avec eux, puis le fait de leur enseigner m'amène le petit côté, ah tiens, tu partages le beau côté, sans nécessairement avoir tous les inconvénients, je te dirais que je trouve ça très agréable.
J'avais un de mes chums qui était aux enquêtes spéciales de la Sûreté du Québec, Danny, qui était collaborateur ici, qui me mentionnait que, tu sais, il y en a beaucoup d'ex de la Sûreté du Québec qui retournent après quelques années pour faire des petits contrats. C'est-tu le genre de choses qui vous intéressent quand vous êtes rendu à la retraite? Revenir couple de mois pour aider?
Bien, souvent, oui, tout à fait. C'est des choses que tu connais, que tu sais faire. Puis tu te rends compte que tu as développé une solide, belle expertise qui peut servir très bien dans l'entreprise privée. Puis c'est souvent, les gars et les filles, oui, retournent travailler un peu dans ces domaines-là. Je te cacherai pas que moi, je trouvais que j'avais donné beaucoup dans le domaine des enquêtes. J'étais
nous
un
autres
peu...
aussi.
Oui, mais regarde, on a fait de toi un bon citoyen, Yannick, aujourd'hui. On a même récupéré Jeff avec les patrons, imagine.
Hey, imagine. On est des petits culs de la basse ville. On avait tout pour rater, puis on est là.
Ouais. Oui, il y a encore Max parce qu'il restait loin un petit peu. Je ne sais pas comment c'était dans son coin.
J'étais mollo, moi.
Il y a plein de choses dans l'actualité à jaser avec toi. Les faits divers sont bien pleins. Puis je ne sais pas si tu as lu Judith Desmeules ce matin, mais elle parle d'un pédophile qui est obsédé par des fantasmes choquants qui s'est fait prendre. Et dans l'histoire, ce qu'on peut apprendre, c'est qu'il y a des policiers qui ont fait une descente chez un pédo. Ils ont réquisitionné le cellulaire du pédo, puis ils ont vu que le pédo il était en discussion avec d'autres pédos. Donc, il y a un agent qui a pris la place de ce dit pédo-là, qui a commencé à parler avec les autres les hameçonner, puis réussir à procéder à leur arrestation. Vous êtes des héros, là. Je veux dire, vous devez endurer ça durant vos enquêtes, parler avec ces individus-là dans le but de recueillir de la preuve. Vous voyez des affaires que monsieur et madame tout le monde ne voient pas. Ça ne doit pas être facile au day-to-day de travailler dans cette escouade-là. Là.
Ça ne l'est vraiment pas. Puis c'est même des secteurs d'enquête où est-ce qu'après ça, on rencontre ces enquêteurs-là puis on leur demande... ils ont des rencontres psychologiques obligatoires là, pour être capable de valider où ils sont rendus dans leur façon de penser, de comprendre ça. Parce que le niveau de tolérance de ce que tu es obligé d'amener, de dire ça, c'est pas normal, mais il faut que tu continues à avancer vers ça. Il faut que tu continues à comprendre comment ce qu'ils pensent ces gens-là. Oui, ça marque ton esprit. Puis il y a des gens qui, après avoir lu le livre que j'avais écrit sur la prostitution juvénile, m'ont dit « Roger, tu devais être post-trauma après ». La première réponse, c'était non, je pensais pas. Mais aujourd'hui, je suis obligé de dire oui, je l'étais. C'est certain parce que ça vient fucker tous tes patterns, tes façons de voir un paquet d'événements, mais tu es obligé après ça de continuer un peu. Puis la partie que tu dis là, en plus... c'est que tu vois que ces gens-là se coachent entre eux. Fait que les meilleurs pédos, en fait, reparlent à d'autres pédos puis se disent comment faire. Fait que toi, t'es toujours en train de regarder, Colin, c'est quoi cette méthode-là? J'avais pas vu ça. ils pensent un peu comme des gourous. Fait que c'est difficile. Fait que même toi, tu es obligé de réfléchir à dire, attends un petit peu, c'est quoi le sens de la vie? C'est quoi le sens des vraies valeurs? Tu remets beaucoup de choses en question. Puis très souvent, ben ça te fuck toi aussi un peu entre-temps.
Donc, le pédo en question, c'est Sylvain Cagnier, qui est un pédophile de 44 ans, qui a plaidé coupable mercredi à des accusations de production, de transmission et de possession de pornographie juvénile. Il a aussi avoir reconnu effectuer... il a fait une infraction à caractère sexuel sur une personne mineure. Les policiers ont récupéré tout le matériel informatique et ont trouvé des vidéos dans lesquelles il s'impliquait avec des enfants. Mais quand même, il faut regarder ces images-là. C'est atroce. Et ce qui m'impressionne, moi, c'est le travail des enquêteurs dans ces dossiers-là. Puis de voir que ces gars-là puis ces filles-là travaillent si fort pour que des fois les sentences soient si peu. Tu sais, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors que j'imagine que dans votre tête, des fois, avec tout ce que vous entendez, ça devrait être 10, 20 ans. Là.
Oui, parce que tu regardes souvent quel impact cette action-là, que ces criminels-là ont eu sur la vie des gens, puis ça fuck beaucoup d'autres gens. Fait que oui, ça, c'est décevant un petit peu de savoir que des fois, tu travailles si longtemps, tu as travaillé très fort pour arriver à atteindre ça avec des nouveaux chemins que tu prends, des façons d'enquêter. La patrouille, ça fait plus juste ses rues, elle se fait maintenant de la cyber-enquête. Tu es obligé d'aller voir sur le web un peu ce qui se passe. Tu es obligé d'envoyer des agents d'infiltration, mais sur le web, savoir qu'est-ce qu'il y en est, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail.
Puis avec ces gens-là, vous devez vous contenir aussi. Jeff, le gars, pendant qu'il était dans la salle devant le juge, là, il entendait les gestes qu'il avait posés sur des enfants. Il est dans la salle, puis il baillait tout fort.
Eh, Seigneur!
Comment tu faisais dans le temps pour te retenir?
Oui, la rage intérieure, elle doit être présente en grippe.
Est-ce que tu t'attachais toi-même?
J'ai eu des vieux policiers qui m'ont conseillé, qui m'ont guidé, ils m'ont dit « Roger, avant, on donnait des sentences sur place, mais ça n'a pas rien arrangé. »
Ah, c'est ça.
Parce que c'est sûr que sur le coup, ça vient te choquer, ça vient te mettre en colère.
Ouais.
Mais je me suis souvent dit par après, cette énergie-là, cette colère-là, j'ai essayé de la transformer en énergie positive. Je dis « Garde, m'a tout faire toi pour te mettre en dedans, puis pas faire d'erreur dans ma façon que je vais présenter la preuve. » Ça m'amenait à être, je te dirais, un peu plus rigoureux. Au départ, ma première action, ça aurait été de dire œil pour œil, dent pour dent. Là. Mais à un moment donné, tu te rends compte que ça n'arrange rien, ça, ce système-là. Parce que tu veux réhabiliter des gens. Et la majorité de ces gens-là que tu ramasses, c'est des pédos, béton. Ben, c'est parce qu'on a abusé eux autres, principalement aussi avant. Alors, si tu refais ça, tu nourris encore cette roue-là. Tu leur donnes raison. Fait que finalement, si tu veux vraiment réhabiliter, c'est pas la façon. Mais à court terme, je leur ai dit souvent, je vous aime vraiment, mais je vous aime en prison. Puis toi, je te sors du circuit, tu m'as tout fait pour
ouais, c'est ça. Un enquêteur là, qui travaille justement sur des crimes sexuels sur les enfants, il doit pas pouvoir faire une carrière de 30 ans. Faut qu'il sorte de là après une couple d'années.
Généralement, c'est entre 3 et 5 ans.
C'est ça.
Puis on te réévalue, comme je vous disais tantôt, de façon cyclique, aux 3 mois ou 6 mois. Tu as des rencontres obligatoires maintenant avec un psy. Pas nécessairement parce que ça va pas bien, mais pour valider et être sûr que c'est pas en train en ce moment de tout modifier tes valeurs. C'est pas normal. On le voit aussi sur les gars qui sont sur les scènes de crime, nos techniciens à l'identité. Ils photographient de proches, de près, toutes les scènes de crime. Au début, tu trouves ça le fun comme kid de dire « Ah, je vais aller voir la scène de crime, ce qui s'est passé », t'apprends puis tu découvres. Avec le temps, tu te dis « Oups, c'est un peu, tu l'as encore, cette image-là, dans ta tête qui reste. Mm-hmm. » Et tu as ça en 3 dimensions. L'image, une photo, te donne ça hauteur, largeur. Quand tu es ces lieux, je peux te dire que le sang, ça sent quelque chose.
Ben c'est ça, l'odeur.
Tout à fait. Ça dégage de quoi? Les scènes que tu vas vivre, l'émotion de la famille que tu ressens, à un moment donné, ça dérange. Fait que c'est pour ça que même ces gars-là, l'identité judiciaire, on les suit de proche, on regarde ce qu'il y en est, puis on se rend compte qu'ils ont besoin à un moment donné de support. Puis quand ça fait trop longtemps, mon chum, va-t'en faire d'autres choses. Là,
autre chose qui se passe dans l'actualité, on nous rapporte des statistiques concernant les incendies criminels. Depuis 2021 jusqu'à 2025, les incendies criminels ont bondi de 53 %. Ça te dit quoi, toi, comme information, ça?
Bien, c'est une conséquence directe, selon moi, avec la prise de contrôle des trafiquants de stupéfiants en ce moment qui se chicanent. Le fait de mettre le feu est souvent un premier signe que tu vas t'en prendre à l'entreprise de l'autre. Tu y fais brûler sa voiture, tu fais brûler son commerce, tu t'attaques à ses biens.
Tu veux l'avoir par son portefeuille?
Tu vas l'avoir par son portefeuille, exactement. Tu fais tort à son entreprise, sa business, puis souvent c'est parce qu'il ne respecte pas tes règles, il ne veut pas te payer, ou bien non, c'est de la concurrence directe. Alors, tu élimines ses lieux, ses points de vente, tu élimines ses endroits. Fait que très souvent, c'est rare que c'est des citoyens honnêtes à qui ça arrive. C'est arrivé dans certaines rues parce que nos criminels font comme plein d'autres font, ils se trompent de maison, alors ils mettent mettre le feu ailleurs. Mais règle générale, l'incendie, ça a été ciblé chez des gens qui avaient toujours affaire au crime organisé. C'est des messages qu'on leur envoie. On ne veut pas nécessairement les tuer, mais on veut leur passer un message. Je dirais que c'est le premier niveau. Tu t'en prends assez bien. Après ça, tu vas t'en prendre à lui physiquement si ça ne marche pas. Tu vas tirer sur lui ou sur sa maison. Mais après ça, c'est sa vie qui va être en jeu si jamais il n'arrête pas. C'était l'ancienne méthode que les Hells Angels avaient également. Là, t'sais. Il y a eu beaucoup de choses comme ça dans le passé. Ils se sont rendus compte dans la guerre des motards que ça ne leur a pas si bien servi que ça parce que tôt ou tard, il y a toujours quelqu'un qui vient se mettre à table qui le raconte. Mais la montée fulgurante des incendies criminels en ce moment, ce n'est pas à cause de feux électriques et autres. C'est parce qu'il y a des gens qui prennent des contrats et qui vont faire des actions pour essayer de terroriser des criminels et leur dire que c'est pas bonne place.
Donc, des fois, ils se trompent de maison.
Ah oui, solidement. Solidement. Ah non, il y a un quartier en banlieue de Montréal où est-ce qu'il y avait un homme d'affaires prospère qui visait tout le temps, mais ils sont allés, ils ont fait brûler trois de leurs voisins. C'est toutes des belles grosses maisons qui se ressemblaient.
Ouais.
Ils ont été pareils pour la résidence à sa fille. Tu sais, dans un autre quartier où il s'est trompé de maison, mais on va intimider sa fille. Le père va comprendre, lui, que c'est sa fille.
Du temps où tu étais enquêteur actif, je pense que c'était pendant la guerre des motards, il y avait eu une erreur sur la personne. Je pense que le tueur à gage, c'était Gérard Galland dans ce dossier-là. Et c'était un détective privé, un jeune détective privé qui s'était fait tuer en pleine rue.
Oui.
Puis on a su plus tard qu'il n'y avait rien à voir avec l'histoire, puis ils se sont juste trompés de personne.
C'était le meurtre de Luc Bergeron, de qui tu parles là?
Luc Bergeron, c'est ça.
Luc Bergeron, puis effectivement, un enquêteur privé qui avait une résidence, mais sa résidence, c'est... Il l'avait loué sans le savoir à une dame. Il savait que c'était une dame-là. Mais cette dame-là était une proche d'un membre en règle des Hells Angels. Et par l'adresse, au numéro plumitif à la cour, l'adresse que ce gars-là donnait, c'était sa résidence à Rugignac. Ce que ça a eu comme conséquence après ça, il avait parti de là pour la surveillance. Ils ont regardé le gars. Il ressemble. Il a l'air de... Il l'a suivi. M. Galland, il avait même crié son nom. Mais il avait crié le nom du bandit. Mais tu cries, t'es tout seul dans la rue. Fait que... Luc s'était reviré de bord, mais il s'était fait tirer à ce moment-là par après. Et il était mort de ça. Erreur sa personne totale.
De l'histoire.
Il n'y avait aucun lien avec l'histoire.
Donc, cette augmentation d'incendies-là criminels, c'est vraiment des messages maintenant. Oui. C'est une nouvelle façon de faire. Est-ce que c'est des techniques qui sont importées d'Amérique du Sud? T'en vois-tu de plus en plus? Parce qu'on a vu avec la guerre là, qu'on a connue entre les gangs de rue et les Hells Angels, dans le secteur de la Beauce, là, des gestes qui étaient extrêmement violents, filmés pour montrer un exemple à tout le monde. Puis dis-les que c'est, les Hells Angels, c'est des trous de cul. Puis là, ils coupent un oreille. Tabarouette, on est rendu où?
Oui.
On importe des techniques d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Les jeunes criminels en ce moment se sont beaucoup amusés à prendre des techniques mexicaines, je te dirais, qu'on a vu faire d'Amérique du Sud, exactement. Oui, on l'a vu.
Puis les jeunes criminels, justement, ça explique pourquoi il y a autant d'erreurs? Parce que t'es pas aussi ferré, là. Fait que t'arrives là un peu sur l'adrénaline, tout fucké, sûrement drogué, puis whoop, tu te trompes.
Exactement. La rigueur méthodique pour travailler n'est pas là nécessairement. Puis souvent, on te prend un contrat en te donnant peu d'informations. On te dit, va-t'en là, il va être là. Ça se peut qu'on te montre une photo sur Facebook ou autrement.
Puis on te fait venir à Montréal faire la job à Québec.
Complètement. Ce qu'on vient de voir ces derniers jours avec le petit jeune de 15 ans. Je ne suis pas sûr qu'il connaissait nécessairement le gars sur qui il tirait avec le véhicule. Peut-être que quelqu'un d'autre le connaissait. Il manque quelqu'un encore à l'appel là-dedans. Mm-hmm. La ville de Québec, les policiers de Québec en cherchent encore un autre. Mais oui, tout à fait. Il n'y a pas énormément d'informations. Tout ce que les gens veulent là-dessus, les jeunes, c'est le nerf de la guerre, au fond, c'est l'argent. C'est pour ça que, tu l'as dit tantôt, si tu es capable de travailler sur l'argent, les services de police le comprennent de plus en plus en ce moment, couper les vivres à ces gens-là, enlever leur matière première qui lui permet de rester prospère, de rester en cavale, de commander des shots. Regardez, ils font sur Albovin, ils font sur d'autres. Faut que tu ailles saisir les biens. Au moins, ça va nourrir les coffres de l'État, même si ça ne revient pas des mains des policiers. Ça va au moins ramener de l'argent à bonne place, puis après ça, essayer de ralentir un peu parce qu'eux en ont besoin pour soudoyer un paquet de monde.
L'âge des jeunes qui sont de plus en plus violents, ça te surprend-tu? Ou il y en avait dans notre temps, moi puis Jeff, quand on avait 15-16 ans, qui étaient aussi violents? Moi, je pense aux jeunes à Frampton là, qui a décidé, avec ses amis, une commande qui était passée, de tirer sur un bunker qui appartient à un groupe criminel. Il a fini en deux, trois morceaux de ce qu'on a compris, là. C'est le genre d'histoire qu'on n'entendait pas en 80-90 chez des jeunes de 12, 13, 14, 15 ans.
En fait, le crime organisé a toujours voulu essayer d'aller chercher le potentiel que les jeunes avaient. C'est sûr que vous n'aviez jamais de membres en règle qui débarquent dans une cour d'école solliciter des jeunes de 15 ans. Mais il y a toujours quelqu'un qui reparle à l'autre, petit frère de restant, puis ça redescendait. Je pense qu'il y en avait toujours un petit peu, Yannick. Parce que moi, j'ai des histoires de gens qui se faisaient influencer quand ils étaient plus jeunes. Mais il y en avait moins qu'il y en avait là. On avait moins de facilité de communiquer, puis on avait moins de façon de le savoir aussi également. Il y en avait toujours un peu. Mais là, c'est clair que nos jeunes, en ce moment, subissent des influences qui ne sont pas les influences qu'on avait à l'époque. À l'époque, tu sais, tes parents étaient plus proches, je pense, un peu, puis tu avais des conséquences assez directes qui n'étaient pas le fun. Mais, tu sais, des claques par la tête, on en a eu une à l'occasion, puis même le directeur d'école avait le droit de te donner une réprimande, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Là. Fait que là, les conséquences, tu n'en as pas. Tu es dans un contexte où ce que les jeunes disent, ouais, ça se peut que ça ne soit pas vrai, puis je l'essaye. Fait qu'il y a beaucoup de nouveaux chemins qui sont faits, puis je pense que c'est plus facile. Assurément qu'il y en a plus, du moins qu'on en voit plus dans les médias en ce moment, ça peut s'expliquer de divers facteurs, mais je pense qu'il faut qu'on retourne, je vous le dis souvent, réinfluencer notre jeunesse à la bonne place au bon moment. Je voudrais te dire qu'ils nous écoutent un matin, ceux qui ont 15 et 16 ans dans le secondaire 4, secondaire 5, secondaire 3, d'après moi, ils n'écoutent pas BLVD un matin. C'est ça qui est le problème.
Mais au moins, les parents sont capables de passer le message. Oui. Puis l'attrait de l'argent semble être vraiment impressionnant chez les jeunes, là, peut-être en raison du fait qu'ils regardent leurs influenceurs, qui sont des criminels aussi, qui mènent des grosses vies. Mais est-ce que c'est ce qui attire ces gangs de rue-là, c'est le fait que si j'en pogne un de 14 ans, puis je le convainc de faire un meurtre, il n'y aura pas 25 ans de prison?
Ça, c'est l'autre affaire exactement qui est très important. On a beaucoup un peu, je ne sais pas banaliser, mais on a permis aux jeunes d'avoir le droit de se récupérer. Alors, les sentences sont moins graves, les conséquences sont moins graves. Et on doit une dernière chance à toutes les fois qu'ils commettent une première infraction. Tu es obligé d'écrire le dossier pour qu'il y ait à la cour, mais ça va généralement tomber avec rien. Fait qu'ils se le font dire, ils se coachent là-dessus. Puis, l'autre phénomène, t'as l'argent, mais t'as le sentiment d'appartenance. Tu sais, à l'âge où tu te redéfinis comme jeune enfant, là, 13, 14, 15 ans, tu vas être dans une gang, tu vas être normal, tu vas être quelqu'un qui se sent bien dans son environnement. C'est l'âge où est-ce qu'il faut qu'on coach un peu plus serré, vous le vivez dans le hockey, assurément. Les influences des amis, c'est qui ton père à côté qui te guide, un père aidant, là, pas seulement un papa, là. Fait que, tu sais, c'est qui t'influence? Très, très, très important. Fait que ça fait en sorte qu'on sait que les jeunes peuvent faire des erreurs quand ils sont mineurs, mais après ça, arrête de répéter les mêmes erreurs. C'est pour ça qu'après, j'ai envie de dire, des fois, on a banalisé, mais il y a des crimes qu'on n'a pas envie de banaliser. Des fois, on les amène tout de suite au tribunal de la jeunesse, ils passent de là vers le tribunal adulte, parce que c'est trop grave ce qu'ils ont fait. Là,
Roger Ferland, un gros merci de t'être présenté en studio pour nous jaser d'affaires policières. C'est toujours un plaisir.
Ça me fait plaisir, monsieur. Bonne journée à vous, puis continuez d'être des sages citoyens.
Roger Ferland, merci, Roger. Un ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec. En fait, tu as contribué à ce qu'on soit sage. Tu nous faisais tellement peur quand on était jeune qu'on se disait que...
J'allais prendre une bière dans le parc Victoria, puis là, je me disais, oh, Roger pourrait m'attraper.
Roger, dites-moi pas que j'ai joué au bonhomme 7 heures.
Il nous regarde par la fenêtre.
C'est ça, il est dans sa centrale, puis il dit, petit Fortin, tu es en train de prendre une bière.
Bon, bonne journée.
Ou la barboteuse.
Roger Ferland, ex-enquêteur au service de police.